fantôme de l'opéra.
Non,
ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Madame Kahn qui va être notre cicérone pour pénétrer dans les arcanes de ce palais extraordinaire.
Et mystérieux.
Et il est vrai qu'il s'est passé tant de choses. Il a connu tant de chanteurs, de danseurs, de chefs d'orchestre, de compositeurs célèbres.
Sans compter le fantôme.
Ah, ne plaisantez pas, madame. Il paraît que le fantôme de l'opéra a vraiment existé. Ce ne fut point une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création de cervelles enfiévrées des petits rats, des employés ou des ouvreuses. Non, le fantôme a existé en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire d'une ombre.
Et comment risque-t-il de se manifester ?
Au cours de notre promenade dans ce labyrinthe de l'art, le fantôme pourrait bien se mêler à la visite.
Oh, que c'est excitant!
Ah, il se pourrait que nous ne sachions plus si nous nous trouvons dans la réalité du palais ou dans la fiction de Gaston Leroux. La représentation va commencer. Allez, nous n'avons que le temps de parcourir ce monument exceptionnel. Les artistes se préparent dans leur loge. Le dernier chariot de costume. Ah, celui-ci n'est pas un chanteur, mais un danseur. Il chante pour chasser le trac. Le foyer de la danse, autrefois, n'était pas réservé aux danseurs. Le public privilégié y venait. N'est-ce pas, Madame Kahn ?
Le foyer de la danse était un lieu de réunion de ces classes sociales, où on parlait d'affaires, où on spéculait. C'était à la fois la Côte des Fossés et le journal de 20h. On s'y disait quel ministre allait tomber. Quel quartier de Paris allait être rénové et donc où il fallait acheter et spéculer. On s'y donnait des trucs et c'est un lieu qui a donc été le creuset d'une société en pleine mutation où les classes du pouvoir se sont renouvelées et où est née aussi toute cette grande bourgeoisie financière de l'époque.
Les électriques, il faudrait que tu sois aussi bas que quand tu te relèves de là.
Ah là, je suis très très bas.
Oui, c'est très très bien.
D'accord.
Eric, plus devant l'arbre, le patinage. Tu vois, t'es encore trop au centre.
D'accord.
T'en fais combien pour rentrer ?
Trois.
Ben fais-en deux.
D'accord.
Les loges à maquillage. Vous voyez, les visages sont tendus avant la représentation. Le grand moment approche. Dans quelques minutes, la salle sera pleine. Les loges seront occupées. Sauf la numéro 5, évidemment.
Pourquoi la numéro 5 ?
Elle est réservée.
Aux personnalités ?
Non. Aux fantômes. À la fin du siècle dernier, le dernier alinéa du cahier des charges de l'opéra était écrit à l'encre rouge, d'une écriture malhabile, tourmentée. Cet alinéa disait
« Si le directeur retarde de plus de 15 jours la mensualité qu'il doit au fantôme de l'opéra, soit 20 000 francs, tous les privilèges pourront être retirés. En outre, la loge numéro 5 sera mise à toutes les représentations à la disposition du fantôme de l'opéra. »
Ce fantôme n'était qu'un escroc ou un maître chanteur. Il suffisait de le faire arrêter.
Ah oui, mais où ?
Dans la loge numéro 5.
Mais personne ne l'a jamais vu dans la loge.
Ah, parce qu'il n'existait pas. Il fallait louer la loge.
La loge du fantôme ? Aucun directeur ne s'y serait risqué. Dans l'ombre se tenait une vieille femme, la mère Giry, concierge dans la journée et ouvreuse le soir à l'opéra. C'était elle qui avait la charge de la loge numéro 5. C'est par elle que les choses avaient pris des formes inquiétantes.
Vous avez parlé au fantôme, Madame Giry ?
Comme je vous parle. On jouait la juive. Mais il est venu plusieurs soirs.
Et alors ? Ça se passait comment ?
La première fois que c'est arrivé, j'ai entendu frapper trois petits coups secs à la porte de la loge. J'ai ouvert. Et j'ai rien vu. J'ai refermé. Et tout à coup, j'ai entendu dans l'obscurité une voix qui me disait
« Madame Jules, ah, ne vous effrayez pas. C'est moi, le fantôme de l'opéra. »
Je tremblais comme une feuille. Je regardais de tous les côtés. La voix était assise sur le premier fauteuil à droite. Mais je ne voyais personne. Et à la fin du spectacle, la voix m'a dit
« Voici pour vous. »
C'était une pièce de 40 sous.
Et alors ?
Alors, rien. La voix venait tous les soirs. Je lui apportais le programme et je trouvais toujours mes 40 sous sur la tablette. Et puis, un soir, les directeurs ont loué la loge et m'ont retiré mon poste d'ouvreuse. Le lendemain, ils ont reçu une lettre écrite en rouge.
C'est donc la guerre. Si vous tenez encore à la paix, vous devez, dès ce soir, me rendre ma loge. Et réintégrer immédiatement Madame Giry dans ses fonctions. Sinon, vous donnerez Faust ce soir dans une salle maudite. Signé le fantôme.
Il faut dire qu'on avait trouvé mort le chef machiniste dans un décor du roi de Lahore.
Mort ?
Pendu.
Suicidé ?
Non. Quelqu'un l'avait pendu, d'horrible façon. Dès lors, la panique s'était emparée du théâtre. Le moindre incident, l'événement le plus banal, le hasard, une plaisanterie, tout prenait des proportions colossales et relevait des maléfices du fantôme. Tenez, venez. Allez, nous poursuivons la visite. Un coup d'œil sur la salle qui est encore vide. Impressionnant, hein ? Et le lustre ? Vous avez vu ce lustre ?
Le lustre est un des attraits de la grande salle, évidemment. Il est bourré de légendes aussi. C'est aussi un des objets légendaires de la maison, puisque ce lustre, au départ, était éclairé au gaz. Et en fait, la coupole qui coiffe la salle, la grande coupole de cuivre verdi, est entourée de motifs d'œil de bœuf qui étaient ouverts sur l'extérieur, ce qui permettait de faire s'échapper les gaz du lustre. En fait, la coupole était une cheminée d'évacuation des gaz du lustre. Le lustre est plein de légendes, évidemment. Le lustre est descendu d'un bon nombre de centimètres et c'est un des contrepoids du lustre qui a été heurté une des loges, la salle était pleine, c'était pendant une représentation, et qui a tué une personne, une malheureuse personne qui était une concierge du quartier qui assistait pour la première fois à une représentation. Et ça, ça a été repris dans le roman de Gaston Leroux, dans Le fantôme de l'opéra. C'est le fantôme, évidemment, qui fait tomber le lustre. Vous connaissez aussi la fameuse phrase « Elle chante à décrocher le lustre » au sujet de la cantatrice. C'est vrai, paraît-il, je ne l'ai jamais vu, qu'une voix très pure et très haute peut briser le cristal. Mais de là à décrocher un lustre du poids de celui-ci, je pense qu'il y a une certaine marge.
Elle chante à décrocher le lustre.
La remplaçante de Madame Giry fut tuée sur le coup. Le fantôme avait encore frappé et exigé que la direction tienne compte des conditions qu'il imposait.
Mais qui était donc ce fantôme qui hantait l'opéra et occupait les bas-fonds où nous n'avons pas encore osé descendre?
D'aucuns l'appelaient l'ange de la musique, depuis qu'il avait réussi en public une chose inouïe. La jeune cantatrice Christine Dahae chantait Faust ce soir-là. Le tout Paris était là. Christine mourait de peur, mais chantait de toute son âme. Quand elle invoqua les anges et commença à se soulever de terre, la salle frémit. À cet appel surhumain, au centre de l'amphithéâtre, un homme s'était levé et restait debout, face à l'actrice, comme si d'un même mouvement, il quittait la terre. Et Christine, les bras tendus, la gorge embrasée, enveloppée dans la gloire de la chevelure dénouée sur ses épaules nues, jetait la clameur divine. C'est alors qu'une brusque obscurité se fit sur le théâtre. Ce fut si rapide que les spectateurs eurent à peine le temps de pousser un cri de stupeur, car la lumière éclaira la scène à nouveau. Mais Christine Dahae n'y était plus. Qu'était-elle devenue? Chacun se regardait sans comprendre. L'émotion était à son comble. Des coulisses, on se précipitait vers l'endroit où elle chantait. Où donc était-elle passée? Quel sortilège l'avait ravie à des milliers de spectateurs? Les anges ne l'avaient pas emportée au sein des cieux, tout de même. Alors qui?
Le fantôme? L'ange de la musique? Mais comment expliquer cette disparition?
L'âme. Porter mon âme au sein des cieux. L'âme, cher ami. Ici, au théâtre, c'est la pièce essentielle du mystère. Venez voir.
Ici, vous avez ce que nous appelons une âme, ce qu'on appelle depuis des siècles une âme. C'est un système qui permet de faire apparaître sur le plateau des personnages, danseurs, chanteurs, figurants. Donc vous voyez, vous avez une espèce de socle. En haut de ce socle, il y a une petite plateforme. Et puis vous avez un long bâton de bois qui sert à pousser ce socle et cette plateforme, avec là aussi un système de filin qui le fait apparaître. On prend évidemment la précaution d'ouvrir le plateau, on tire sur le filin et hop, apparaît sur le plateau l'amour dans des nuages roses, la guerre dans des voiles noires ou tout autre personnage.
C'est le fantôme qui nous accompagne.
Ne plaisantez pas, cher ami. La nuit, quand le théâtre est vide, tout le palais lui appartient. Et le jour, parfois, il est là aussi, quelque part, caché. Il nous guette. Il est dans ce mur, dans ce plancher, dans ce plafond, dans l'œil de cette serrure, l'oreille de cette poutre.
Ah, c'est lui?
Non. Ça, ce sont les fermeurs de trappe.
Mais si c'était lui?
Non, à cette heure-ci, il travaille.
Que fait-il?
Une œuvre terrible. Quand il travaille, il ne voit rien. Il ne mange, ni ne boit, ni ne respire. C'est un mort-vivant.
Il compose?
Un opéra grandiose.
Ah!
Attention aux trappes. Regardez où vous allez, par ici.
Vous êtes sur le plateau? C'est le cœur de la maison, en plus, spectacle magnifique, la salle est offerte et ouverte. Ce plateau est mobile, mais il n'est pas mobile. C'est un plateau à l'italienne, c'est-à-dire en pente. Il n'est pas mobile comme les plateaux modernes de la fin du 19e et du 20e siècle, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir totalement. Il est mobile par trappe et par coulée, si on peut dire. Donc on peut ouvrir des parties de ce plateau, dont les fameuses trappes que vous retrouvez dans le roman de Gaston Leroux, puisque dans le roman de Gaston Leroux, il y a un personnage qui est là pour fermer les trappes, ouvrir et fermer les trappes, et qui est un petit peu comme dans Le Diable boiteux, le personnage qui voit tout, puisque c'est lui qui épie par les trappes ce qui se passe dans le théâtre.
Comme nous, les héros de Gaston Leroux sont pris dans cet enchevêtrement, dans ce labyrinthe de charpentes, de poutres, de jambes de force, de versants, de rampants, de toiles peintes, de herses.
C'est lui ?
Non, je ne crois pas. Si c'était lui, nous verrions ses yeux. Il a des yeux d'or. Mais il peut arriver derrière nous et nous surprendre. Alors apparut un visage lumineux, une figure en feu qui s'avançait à hauteur d'homme, une figure sans corps.
C'est lui.
Je ne sais pas si c'est lui, mais c'est certainement lui qui nous l'envoie. Cachez vos yeux, il va vous éblouir comme un soleil. Protégez vos yeux et fronçons.
Qu'est-ce que c'est ?
Le danger est passé. Nous sommes à la campanelle.
La campanelle ?
Un instrument extraordinaire. Une batterie de cloches et de sonnailles.
L'opéra possède un ensemble campanaire exceptionnel qui a beaucoup servi, notamment pour ce qu'on appelle le grand opéra, c'est-à-dire les œuvres d'Halévy ou de Meyerbeer qui ont été données dans la fin du 19e siècle et les 30 premières années du 20e siècle. C'est assez rare, il n'en existe pas beaucoup. Il est classé d'ailleurs, comme est classé l'orgue, qui est un cavaillé-école, qui a été fabriqué au moment de la construction de l'opéra et pour l'opéra. Et là aussi, il y a une légende. On raconte qu'une de ces cloches aurait sonné la Saint-Barthélemy. Bon, ce qui est bien évidemment faux. D'ailleurs, la Saint-Barthélemy, dit-on, n'a pas été sonnée. On dit qu'elle a été déclenchée par un tir, mais qu'elle n'a pas été sonnée. Mais on raconte qu'une de ces cloches viendrait de Saint-Germain-l'Auxerrois et serait une des cloches qui a sonné la Saint-Barthélemy.
Les cloches ont une histoire. Elles ont une âme, une voix qui gémit, qui se déchire, qui supplie, qui maudit.
C'est tout ce que vous avez pour nous éclairer?
Je ne pouvais pas me douter qu'il y aurait une panne.
Ce n'est pas une panne. C'est encore un coup du fantôme. Il ne supporte pas que nous visitions son domaine. Où sommes-nous?
Je ne sais plus. Dans un couloir qui doit mener à... Je sais plus. Chut.
Oh, cette fois, c'est lui.
On va bien voir. Montre-toi, charlatan. Oh, mon fantôme, montre-toi, si tu n'es pas un lâche.
Il n'est peut-être pas nécessaire de le provoquer.
Oh non, mais je suis armé. S'il se montre... Je l'ai eu. Qu'y a-t-il ?
Regardez ! Du sang sur le mur !
Alors je l'ai touché. Oh, il nous faut de la lumière. Le jeu d'orgue. Le jeu d'orgue. Venu !
Alors, le jeu d'orgue est le nom qu'on donne au système installé à partir du moment où l'éclairage a été mis au gaz et au début du Palais Garnier, quand il a été ouvert en 1875, l'éclairage était au gaz. C'est ensuite petit à petit qu'on est passé à l'électricité. À l'époque, il n'y avait pas EDF, n'existait pas. Il n'y avait donc pas une compagnie qui avait le privilège de l'électricité, si je puis dire. Il y avait plusieurs systèmes d'électricité, le système d'Edison, le système de Jablokov, et au fur et à mesure, les parties du bâtiment ont été éclairées. Et ce qu'on appelle le jeu d'orgue est le système d'éclairage de la scène qui, un petit peu comme un jeu d'orgue en parlant d'instruments de musique, permettait, avec des commandes différentes et des touches différentes, d'éclairer la scène, de baisser l'éclairage, de le monter et d'éclairer diverses parties de la scène et surtout de faire des effets. Et cet art de la lumière s'est développé petit à petit. Au début, le jeu d'orgue était sous la scène. Il occupait ce qui maintenant est une partie de la fosse d'orchestre, puisque la fosse d'orchestre passe sous la scène. Il occupait cette partie de la fosse d'orchestre et le chef éclairagiste avait ces manettes-là et en fait il regardait la scène pour donner les effets.
Oh, les danseurs au-dessus.
Le spectacle a commencé ?
Bah, on dirait. Continuement. Faites-moi confiance.
Vous connaissez bien l'opéra ?
Oh, bah, moins bien que lui. Mais je l'ai surpris plusieurs fois. Tenez, approchez de cette glace. N'ayez pas peur. Approchez encore. Maintenant, entrez dans la glace.
Pardon ?
Entrez dans la glace. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. La glace est sur un pivot. Avec un contrepoids, on peut faire tourner une maison d'une seule main. Ce pan de mur, avec son pivot bien en équilibre, ne pèse pas plus qu'une toupie sur sa pointe.
Cet homme est donc le diable. Il est même maître des murs.
Ben, il commande aux murs, aux portes, aux trappes.
Pourquoi ces murs lui obéissent-ils? Il ne les a pas construits.
Mais si, madame. Il a été l'un des premiers entrepreneurs de la maçonnerie de Philippe Garnier, l'architecte de l'opéra. Et il a continué à travailler mystérieusement tout seul quand les travaux ont été officiellement suspendus pendant le siège de Paris et la Commune. De la plus honnête construction du monde, il a fait la maison du diable.
Vous êtes ici dans la salle des cabestans. Vous voyez qu'on a gardé certains de ces cabestans qui servent toujours. La machinerie de la maison a été rénovée, bien sûr, remise aux normes, et elle est maintenant assistée par ordinateur. Mais on a gardé des bribes de cette ancienne machinerie, dont ces cabestans, ces magnifiques roues en bois, ces roues dentées en bois, sur lesquelles se trouvent des cordages qu'on enroule ou qu'on déroule et qui servait, avec un système de contrepoids, à faire monter ou à faire descendre les décors sur scène.
Dans le roman de Gaston Leroux, la cantatrice est enlevée par une forme noire qui, après avoir drogué Christine, l'emporte sur son dos dans des galeries sinistres.
Une lueur bleuâtre nous entourait. Nous étions au bord d'un lac dont les eaux de plomb se perdaient au loin dans le noir. Je vis une petite barque attachée à un anneau de fer sur le quai. Les âmes mortes ne devaient pas ressentir plus d'inquiétude en abordant le Styx. On me déposa dans la barque qui navigua assez longtemps. Je crois que je m'évanouis. Je me retrouvais dans un salon rempli de bouquets de fleurs, comme ceux que je trouvais dans ma loge les soirs de première. Un homme masqué se tenait debout devant moi.
Rassurez-vous, Christine, vous ne courez aucun danger.
Cette voix, votre voix.
Une voix, oui, mais je ne suis qu'un homme. Je ne suis ni monstre, ni ange, ni génie, ni fantôme. Je suis un homme et je vous aime.
Vous m'aimez ?
Jusqu'au crime.
Le lac. Le célèbre lac de l'opéra. Que n'a-t-on pas raconté sur ce lac mystérieux ? Tant pis pour la beauté de la légende.
Le lac, c'est une des plus belles légendes de la maison, qui en contient beaucoup. C'est une légende qui a sa part de réalité. Évidemment, il n'y a pas de lac. C'est comme le Père Noël, il ne faut pas le dire. Il y a simplement un réservoir, plein d'eau, qui était destiné à contenir la poussée des eaux souterraines. Et puis un jour, quand Garnier se promenait dans le chantier, il s'est aperçu que l'eau résurgeait à travers cette cuve. Donc évidemment, une fois colmatées les fissures, il a trouvé ce petit truc technologique qui est d'inonder la cuve, ce qui fait que la poussée des eaux, évidemment, contrebalançait les eaux souterraines et que ça contribuait aussi à colmater les fissures, en déposant du limon, les fissures qui pourraient se produire. Et de là est née toute une légende, et de là est né surtout ce livre merveilleux qui est à la fois un roman policier et le plus bel hymne que je connaisse à un bâtiment, qui est le fantôme de l'opéra. Parce que le vrai héros du fantôme, ça n'est pas le beau, riche et noble jeune homme, ça n'est pas la belle cantatrice à laquelle il arrive tant de malheurs, ça n'est pas non plus le fantôme, cet être sympathique finalement, c'est le bâtiment.
Pour visiter l'endroit le plus étrange de l'opéra, ce lac souterrain, nous avons changé de guide. Nous sommes maintenant avec Michel Bazin, qui fut l'un des pompiers qui surveille en permanence l'opéra. Si Michel n'était pas un intime du fantôme, il devait quand même avoir quelques relations avec lui, puisqu'il lui avait donné la permission d'élever des poissons dans ce lac. Vous ne me croyez pas ?
Kilomètres de couloir dans la baraque. C'est le grand pavillon de banlieue. Système ad hoc. Cousima. Attention. Bon, je vais attendre que ça se tient. Alors on n'en voit pas. Peut-être qu'on va en voir s'il y a un jeune. Ça, c'est la relève, ça. La dernière, ça. Ça, c'est la relève, ça. Là, tout à l'heure, je les ai vus, mais là, c'est plus l'horreur. En fait, je vais foutre un peu à bouffer, quand même. Des granulés pour le présent. Attention, il marche. Oui, quand c'est la croûte, va finir sa croissance.
Mais on a raconté beaucoup de choses sur cette nappe d'eau. Ça n'est pas la grange batelière qui passe là. C'est une cuve. C'est un, voilà, lac, c'est un lac artificiel.
Totalement artificiel. Il y en a même deux. Il y a une grande cuve, une petite cuve. De toute façon, la grange batelière, on parle toujours d'une rivière, la grange batelière, moi je la vois pas. Hein. Il y a l'Ourcq, il y a la Vanne, il y a la Bièvre, mais recherché dans les bouquins de Paris souterrain, on trouve jamais grange batelière. La seule explication, on appelle ça la grange batelière, l'emplacement de la grange batelière, la seule explication qui me paraît valable, mais je mettrai pas ma main à couper parce qu'elle peut pas me servir, que ce soit la droite ou la gauche, c'est que c'était un entrepôt de grains de la batellerie, donc grange batelière. Voilà, sans garantie de mésigue.
Mais on peut supposer qu'à l'origine, quand même, ça a servi de réserve d'eau en cas d'incendie ou...
Je ne pense pas. Alors, cette petite cuve, là, c'est la petite, fait 160 mètres cubes à peu près. Elle servait pour la climatisation de la salle avant qu'il y ait un nouveau système. Okay. Et le principe, la grande cuve a une incidence sur l'équilibre du bâtiment.
Ah, c'est ça.
Mais on peut la vider... complètement, la laisser 2 mois vide, elle ne se remplira absolument pas si on ne met pas d'eau dedans. Alors, c'est totalement étanche.
Et c'est vous le premier qui avez eu l'idée d'élever des poissons, là ?
Ah, ben, ma connaissance, oui. Ma connaissance. Alors, on m'en a piqué, ça, c'est autre chose. Mais j'ai arrêté les truites parce que ça grossissait très vite. C'est de la truite de sélection, la truite d'élevage, la truite arc-en-ciel. J'en ai qui grossissait 200 grammes par mois. Vous voyez, au bout de 2 ans, ce que ça peut donner.
Ah, oui.
Ah voilà, j'ai 4 barbeaux, enfin, ce qu'on appellerait des gros, quand même. J'en ai un qui doit faire pour 24 kilos. Et puis, 4 petits, 4 jeunes.
Chut ! Cachez-vous et regardez.
Qui ? Le fantôme ?
Pas celui que vous attendez, non. C'est le fantôme de l'éblouissante Zambelli qui danse Coppelia.
Dans les souterrains ?
Mais pourquoi pas ? Regardez, regardez. Au bout de ce couloir, le fantôme de Nijinsky qui danse chez Razad. Et là, Serge Liffard et Yvette Chouliré dans Gisèle.
Du fond des galeries arrivent tous les grands anciens. Leurs visages surgissent comme à travers des miroirs opaques. Hirubova, Darsonval, Diane Deydé, Solange Schwartz, Roland Petit, Margot Fontaine, Claude Bessy et tous les autres dansant dans d'invisibles décors de Léonore Fini, de Carzou, de Fernand Léger. C'est le monde des hauteurs, peuplé de dieux, de muses, de coursiers en folie.
Remontons. Je renonce à faire la connaissance de tous ces fantômes.
Trop tard.
Je veux remonter dans la salle, rejoindre le public.
Un instant. Avant de sortir du ventre du mystère, arrêtons-nous un instant devant cette porte blindée qui porte une inscription sibylline. Don d'Alfred Clark, 28 juin 1907, gramophone.
Qu'y a-t-il dans ce placard ?
Oh, il y avait des voix qui se sont tues. En 1907, la société gramophone pensa qu'il serait intéressant de retrouver, un siècle plus tard, des voix lyriques célèbres. Deux douzaines de disques furent alors gravés, ayant pour interprète la Patti, Caruso, Chaliapine. On enferma soigneusement ces voix dans des urnes en plomb et on souda le couvercle après avoir fait le vide. Sur les urnes, il était stipulé qu'elles ne pouvaient être ouvertes que le 28 juin 2007. Et puis, tout fut refermé, bouclé dans ce placard mystérieux, mais il n'y a pas si longtemps, on s'est aperçu que le placard avait été forcé et des voix avaient été emportées par quelque amateur indélicat ou par...
Le fantôme.
L'ange de la musique possède sans doute une urne, car parfois la nuit, il ouvre le couvercle et s'envolent alors, comme une volée de moineaux, des voix célèbres, mêlées, mais que l'on peut reconnaître. Avec ou sans son fantôme, l'Opéra Garnier est chargé de mystères. Et quand il faut remonter à l'orchestre ou dans les foyers, on a l'impression de retourner chez les vivants.
Mais ça avait commencé.
Bah, on dirait que nous sommes à la fin du deuxième acte.
Alors nous avons tout raté.
Oh non. Vous avez vu ce qu'aucun autre spectateur n'a vu?
Le fantôme de l'opéra.
Thank you.